Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast saison 3 épisode 19. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Comment tu vas aujourd'hui?
Bah plutôt bien. Et vous?
Et vous, comment
allez-vous? Coucou les gens, nous sommes filmés maintenant.
Ça va? On est toujours en phase de test avec un matériel innovant que vous avez peut-être vu ce week-end à l'occasion des Magritte du cinéma, puisque c'était ce samedi, Thibaut. On était sur place pour un live d'avant-cérémonie. Qu'est-ce qu'un live d'avant-cérémonie? En fait, c'est très simple, c'est une sorte de faux direct dans lequel on parcourt les nominations et on dit ok, quels sont les pronostics, quelles sont nos envies, et vous êtes nombreux à avoir écouté On Demand, le live, parce que c'est pas toujours évident d'être connecté sur Facebook ou sur YouTube au moment du direct, mais il y a quand même certains d'entre vous qui étaient là pour participer. Mais maintenant vous êtes plus de 500 je pense à avoir regardé à la demande sur notre page YouTube et aussi sur la page Facebook de Cine News qui était notre partenaire pour cet événement là. Voilà, c'est tout.
C'était plutôt une chouette expérience.
Exactement, on peut directement aller dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est comme d'habitude le sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va parler notamment des actualités du box-office, entre autres, et de certaines news, notamment en lien avec le Super Bowl qui a eu lieu ce week-end aussi. C'est un week-end chargé.
Très.
Birds of Prey, ça c'est le premier film de la semaine avec Margot Robbie, bien sûr, dans son rôle de Harley Quinn, qui reprend en fait le rôle d'Harley Quinn après Suicide Squad. Ici, c'est un film qui n'est pas une origin story, mais qui est une suite de Suicide Squad, mais un peu dans un univers parallèle. On n'est pas vraiment... ça se détache un petit peu de Suicide Squad, quoi. On n'est pas dans le même truc. On va pas avoir Will Smith qui débarque en un coup.
Non.
Voilà. Donc c'est vraiment sur elle.
C'est un spin-off.
Un spin-off, exactement. C'est le bon terme. On va vous parler juste après ça du débriefer un peu les Magritte, voir ensemble quelques belles photos d'ailleurs qui nous ont été envoyées pour un peu agrémenter tout ça, puisque si vous nous regardez en vidéo, vous allez voir les photos, bien sûr.
Ouais, de Pierre-Yves Jortet.
Tout à fait,
j'allais le dire. Un fidèle auditeur dont les retours nous ont été très, très pratiques, principalement lors de notre première saison.
Oui.
Ça remonte déjà à l'époque.
Ça remonte, jadis. Donc tout à fait, on regardera un peu le recap des Magritte, on parlera de nos impressions sur cette soirée. Et ensuite, on passera au deuxième film de la semaine qui est Official Secrets. Je dis ça comme un film flamand, mais en fait, non pas du tout, c'est un film anglais avec Keira Knightley. Et cette fois-ci, Keira Knightley a joué un film qui se passe dans le présent, presque dans le présent, puisqu'on est des 2003, un truc comme ça. Voilà.
Elle a remis ses costumes d'époque dans l'armoire.
Exactement. Pour le meilleur ou pour le pire, on verra ça ensemble, Thibaut. Ensuite, on parlera des BAFTA. C'était aussi ce week-end, décidément. Il n'y a eu pas tellement de surprises. On s'attendait un peu aux différents gagnants. Donc, on en reparlera vite fait. Et notamment de
la cérémonie a plus fait parler d'elle pour ses discours que pour ses prix, effectivement.
Exactement. Les prix étaient un peu prévisibles, mais les discours étaient plus sympathiques. On en parlera aussi. Et on terminera cette semaine par un petit film, rien que ça. Une vie cachée de Terrence Malick, film qui se déroule, je pense que c'est tout autour de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, puisque c'est l'histoire d'un Autrichien, ce n'est pas un Allemand, qui refuse d'aller se battre, qui fuit, entre guillemets, les nazis, pour vivre avec sa femme.
Ouais.
Voilà, donc une vie cachée, n'est-ce pas? C'est un peu le retour aux sources de Terrence Malick, qui... Allez, retour aux sources, c'est un grand mot, mais en tout cas, il revient à quelque chose de peut-être plus consommable, si c'est le mot, le terme.
De plus narratif, qu'on dit.
De plus narratif, c'est ça, c'est plus propre, consommable, ça fait un peu mes études de marketing qui ressortent, je suis désolé. Donc voilà un peu le programme de cette émission, et forcément, en fin d'émission, on regardera qu'est-ce qui se passe au cinéma la semaine prochaine, et quel sera le programme de Cinécast à ce moment-là. Ben voilà, je pense qu'on a bien avancé. On va passer peut-être au box-office et à la revue de presse. La revue de presse, cette fois-ci, vous avez remarqué, il n'y a eu pas la même musique. On expérimente des choses dans Cinécast, c'était pas exactement la même musique. On a re-eu la musique du générique d'introduction de cette émission. Mais non, on recommence pas l'émission, on est bien dans la revue de presse. Voilà, on avait dit que ça allait arriver au début, on expérimente de nouvelles choses. C'est comme ça que ça se passe, Thibaut, que veux-tu que je te dise?
Bah bravo, je pensais que tu avais tout prévu, que ça allait rouler comme sur
des roulettes. Honnêtement, je pensais, mais voilà, on apprend. Donc du coup... revue de presse cette semaine, on commence par le box-office, comme chaque semaine, et là, pas vraiment de surprise en France, puisque c'est toujours Bad Boys qui est film numéro 1 de la semaine. Il y a également plusieurs sorties cinéma qui sont arrivées entre-temps. Je pense notamment au Lion, avec Danny Boone et, j'oublie toujours son nom, Philippe Catherine, qui lui a fait 265 000 entrées, et 1917 est deuxième, hein, donc c'est celui-là qui prend la place du milieu au podium avec 335 000 entrées, de très bons résultats du coup pour le film de Sam Mendes qui, on en parlera après, ne cesse de recevoir des prix à gauche à droite et commence à sentir très bon l'Oscar et la petite statuette dorée, n'est-ce pas ?
Effectivement.
D'autres films qui sortaient cette semaine en France, il y avait Jojo Rabbit notamment, qui lui est quatrième, donc il n'a pas réussi à monter plus haut que ça dans les sorties de la semaine. 135 000 entrées pour ce film-là. Ensuite, il y a d'autres films, hein, Les Traducteurs, L'Esprit de Famille, mais, parlons-en un petit peu, vu que c'était deux films dont nous avions parlé. La Voix de la Justice est huitième avec 115 000 entrées. Et dixième, on a Cuban Network. On avait fait la critique du film à chaud à Venise. Et on n'avait pas aimé. Je pense que c'est plus ou moins ça le retour là-dessus. Voilà, qui clôture notre chapitre box-office. Ensuite, prochaine information. Et elle va te plaire, Thibaut. Elle concerne un petit film, une franchise, hein, méconnue du grand public, avec Ethan Hunt. Ou Tom Cruise, qui court sur un avion, qui court sur une tour, qui court dans Londres, qui court un peu partout, et qui se casse aussi parfois les pieds.
Ouais.
Je sais pas si c'était le pied ou en tout cas l'articulation, mais c'était sympathique. Chevilles, ouais. Tom Cruise qui est de retour, enfin ça c'est sûr, pour les Mission Impossible 7 et 8 qui ont été confirmés. C'est d'ailleurs les deux derniers de la saga, hein, qui vont être tournés en même temps. Par Christopher McQuarrie.
Enfin, deux derniers.
C'est ce qu'ils ont dit.
Les deux prochains.
C'est ce que Tom Cruise a dit lui-même. Hein, donc, il dit « It's time to get it over ». Mais bon, si c'est un milliard par film, il y a toujours moyen de négocier. On va peut-être avoir un peu Harrison Ford, un Tom Cruise qui va revenir en toute fin de carrière pour nous faire un de-aging. Bref, il en vient quand même qu'il y a une nouvelle qui va faire plaisir aux fans, dont toi, hein, d'ailleurs. C'est qu'un vieil ennemi, en tout cas une vieille connaissance de Tom Cruise, va faire son apparition dans le film.
Oui, vieille connaissance, c'est pas un ennemi.
Presque.
Parce que c'était quand même le patron de l'IMF.
Tout à fait, mais rappelle-toi de cette fameuse scène dans Mission Impossible 1. Quel est son nom d'abord?
Kittredge,
tout à fait.
Cette scène dans le restaurant avec l'aquarium, avec le chewing-gum.
Exactement, l'aquarium qui s'écroule suite à juste un bête morceau de chewing-gum. Digne d'un James Bond, n'est-ce pas? Ouais. Mais à ce moment-là, si je me rappelle bien, dans ce film, entre eux, la relation est en train d'un peu se faner.
Ben oui, c'est le moment où l'IMF va partir à la poursuite d'Ethan Hunt, donc, qui d'une certaine façon va devenir son ennemi. En même temps, c'est pas la seule fois de la saga où Ethan Hunt s'est fait poursuivre par l'IMF.
Non.
C'est une des nombreuses fois où c'est arrivé.
Opération fantôme.
Donc, c'est la même chose. Oui. Effectivement, Kittredge sera de retour dans les épisodes 7 et 8. Et je trouve ça génial. Je suis tout excité depuis que Christopher McQuarrie a tweeté. À tweeter cette nouvelle.
Ça m'étonne pas de ta part. parlons aussi d'une autre nouvelle, aussi dans le style de l'espionnage. Hein, nous avons des nouvelles de James Bond. Mourir peut attendre. En tout cas, nous, on attendra jusqu'au mois
Faut absolument que tu arrêtes de dire tous ces titres avec des accents.
Parce que c'est écrit n'importe comment. C'est surtout pour ça que j'exagère. D'ailleurs, j'en rigole souvent avec mes amis, avec ma femme aussi, puisqu'elle aime beaucoup James Bond. Et ça la fait beaucoup rire que le prochain film s'appelle Mourir peut attendre, ce qui est un peu absurde. Ok, donc Mourir peut attendre, c'est le prochain film de James Bond, et on a des informations sur la durée du film notamment. 2h54, Thibaut, es-tu prêt pour ça? Pour cela, écoutez, 2h54.
C'est énorme, c'est le plus long de la saga de tous les James Bond.
C'est énorme.
C'est quand même. Enfin, 2h54, c'est quand même très long pour un James Bond, non?
Je trouve ça très très long. Je sais que Spectre était à 2h40 presque, donc bon.
Ah ouais,
je pense on l'a déjà fait dans ces eaux-là, hein, ouais, qu'on d'accord. se le dise. Et quand on voit la bande-annonce du film, puisqu'elle a été diffusée au Super Bowl, et c'est pas la seule bande-annonce qui a été diffusée au Super Bowl, on en parlera juste après, il y a l'air d'avoir beaucoup d'informations dans ce James Bond, hein, notamment ses relations amoureuses, comme toujours, mais là, c'est un peu différent. Son méchant, qui est interprété par Christoph Waltz, qui est de retour, il y a Rami Malek, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, donc à mon avis, ils vont mettre pas mal de contenu dans ces 2h50, et
Ça risque d'être dense, effectivement.
Et on nous promet un film qui va changer toute la saga.
Ouh.
C'est ce qui est marqué dans mon annonce. Le film 25e film qui va changer toute la saga. Quand on sait que les brocolis souhaiteraient revendre la franchise.
Ah, oh, tu crois qu'ils annoncent le passage de flambeau avec déjà un personnage. Tu vois, genre, ils auraient déjà engagé un acteur ou une actrice pour remplacer Daniel Craig. Mmh. Ça sent le coup comme ça. Hein.
Mmh. Ouais, ça sent le truc préparé.
Ah ouais, ouais, ouais.
Par contre, moi, ça sent aussi la mort de James Bond.
Oh là là.
Je le sens très, très bien, ça. Donc, en gros.
En même temps,
25e.
No Time to Die.
Voilà, No Time to Die. Et puis dans l'abandon, c'est clairement, ils sous-entendent que c'est la fin. Surtout que c'est le dernier Daniel Craig. Ils n'ont pas encore annoncé de remplaçant masculin pour prendre la franchise. Je dis bien masculin parce que dans le film, il y a une femme qui a un rôle de 00 quelque chose. Je ne sais pas si c'est 09
ou 10. Oui, c'est le personnage de Naomi Harris, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Hein,
qui a un numéro, mais je ne sais plus quel. Et donc, du coup, on sous-entend qu'ils travaillent ensemble et que peut-être que lui, il est trop vieux. Bah, ça fait longtemps qu'on dit qu'il est trop vieux. Donc.
Non, je pense pas que Daniel Craig soit trop vieux, mais.
Mais bon, attention, hein, Netflix et Apple. Netflix et Apple sont très intéressés de racheter la franchise. Donc si Netflix et Apple rachètent James Bond, je pense que l'objectif sera de refaire des James Bond avec peut-être un homme, du coup.
Ah.
Donc ce serait un peu genre la fin d'une ère, mais en même temps le début d'une nouvelle. On verra ce que ça va donner. On vous tiendra bien sûr informés ici dans Cinécast.
Ça promet.
Ça promet. Autre nouvelle, toujours et musclée, on peut le dire.
Ouais.
C'est la famille. Fast 9, qui a aussi eu une bande-annonce autour du Super Bowl. Il y a eu une petite bande-annonce de 30 secondes pendant le match. Mais après, il y a eu sur YouTube et sur les réseaux sociaux la longue bande-annonce où on voyait Dominic Toretto, sa famille, bien sûr. Et sa famille au point d'avoir son frère qui arrive, qui déboule de nulle part.
Tu sais, je pense que les auditeurs savent que je ne regarde quasiment jamais, ou en tout cas très peu, les bandes annonces, mais je ne m'en cache pas, je me suis empressé de regarder celle-ci, parce que la saga Fast and Furious est quand même un gros plaisir, alors parfois coupable, parfois pas. Je ne suis pas du tout coupable pour la cinquième, parce que je trouve que c'est un excellent opus, coupable pour d'autres épisodes, très certainement. Mais bref, je suis quand même un grand amateur de la saga Fast and Furious, et alors... On va pas le faire ici, mais franchement, on pourrait faire un podcast entier pour analyser la bande-annonce de ce 9e Fast and Furious, parce que putain, il y a des choses à dire, quoi.
Est-ce qu'on fera un jour des reaction videos comme ils font sur Internet ? Je pense que ça peut être intéressant, maintenant qu'on a le matériel en tout cas, de temps en temps regarder ensemble une bande-annonce et de la diffuser en même temps sur la vidéo, ça peut être sympa.
Ah mais si, enfin déjà, d'où sort ce frère de Dominic Toretto ? On n'en a jamais parlé, enfin soit... Hein, après 9 films, ça fait quand même un peu bizarre. Hein. Mais bon, pourquoi pas.
Il faut justifier l'absence de The Rock et puis, Jason Statham. Hein.
Il y a John Cena, quoi. John Cena, c'est quand même le mec qui sait absolument pas jouer. C'est fabuleux.
Excuse-moi, est-ce qu'ils savent jouer dans ce film-là ? Je crois pas que c'est...
On s'y fait.
Tu m'aurais dit, il y a Daniel Day-Lewis qui sort avec sa Mustang. J'aurais dit, waouh.
Non, mais bon.
Ça, c'est fort, t'imagines. I'm back, bitches.
Puis là, ça défie encore toutes les lois de la gravité et de la physique.
Ah oui.
C'est
ce truc à la
ce truc sur le
Jungle
pont, là.
Bazaar là, mais non, c'est n'importe quoi.
C'est hommage à Sorcerer de William Friedkin, c'est assez fabuleux. Enfin bref, je pense qu'on va encore bien s'amuser devant Fast and Furious.
Ouais, autre info, dernière info de la semaine, toujours autour du Super Bowl, Disney a sorti plusieurs bandes annonces de séries télé basées sur, enfin séries télé, c'est plus vraiment de la télé, mais séries streaming, on va dire, qui sont basées sur l'univers de Marvel. Il y a notamment Loki, il y en a bien d'autres hein, avec Vision aussi.
Owen Wilson qui rejoint le casting de Loki.
Exactement.
On a appris,
donc, pas mal de bonnes nouvelles. Ça a l'air d'être du contenu bien enrichi. La suite aussi de Captain America avec la reprise de Flambeau.
Ouais.
Donc, très clairement, ils vont produire des contenus de qualité. Et le look, en tout cas, de ces séries ont l'air très Marvel. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est une série télé, en fait. Quand on regarde les images, on se dit que c'est un film, c'est un nouveau... Moi, j'ai cru au début, il y avait le bouclier qui arrivait à fond la caisse dans un arbre. Et je me suis dit, ah, il va y avoir un nouveau Captain America au cinéma. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, on parlait de streaming.
Mm.
Mais donc, je me suis dit, ouf, c'est quand même balèze de sortir des contenus comme ça sur Disney+. Ils en ont besoin, parce que depuis Star Wars, il n'y a plus grand-chose.
Puis, ils ont les moyens, hein, quand même.
Ils ont les moyens, et on a une date de sortie pour nous en Belgique.
Oui, alors déjà, ils ont avancé la date française et européenne. Ça devait sortir vraiment toute fin mars. Au final, ils ont avancé ça au 24 mars. Et pour plusieurs autres pays... dont la Belgique, le Portugal et les pays scandinaves, ça va arriver à l'été 2020. Voilà. Donc, bizarrement, pas une sortie synchronisée sur... Bon, déjà, sur les Pays-Bas, on le savait, vu que c'est dispo depuis le mois d'octobre ou novembre aux Pays-Bas.
Oui, oui.
Mais on supposait que ça allait se caler sur la date française, mais non, même pas. Ça attend encore plus longtemps, ce qui est assez particulier, je trouve. Bon, enfin,
c'est clair, c'est assez étonnant de postposer à ce point-là. Mais d'un côté, bon...
Parce que d'habitude, c'est synchronisé soit sur les Pays-Bas, soit sur la France. Oui, en fonction. Et là,
je crois qu'ils étaient pressés de sortir leur plateforme, surtout dans leur marché principal.
Ouais.
Parce qu'il voilà, il ne faut pas attendre. Il y a Apple, il y a tous les autres qui sont là et demain, ils seront encore plus forts. Donc, il faut pouvoir sortir très vite avec du contenu. C'est ce qu'ils font. Donc, on attend de voir ça. On attend de voir si la qualité sera au rendez-vous. Personnellement, on ne va pas commencer à regarder toutes les séries Marvel sur Disney+, parce que sinon, on ne pourra plus faire Cinécast. Donc, ce sera compliqué. On se concentre quand même sur le cinéma. Mais vous avez des amis, bien sûr. Nous avons aussi des amis sur YouTube qui s'occupent de faire toutes ces rubriques-là, un peu plus Marvel, comics, etc. Nous, on le fait parfois, mais pas dans le même souci du détail.
Non.
Tu vois, les figurines Funko Pop, c'est tout. On n'est pas là.
D'ailleurs, vous pouvez juger de notre décor.
Mais il est bien ce décor que vous avez pensé. Il y a juste les plantes derrière.
Ce sont mes rideaux. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a juste les sets de table aussi. Mais ça, c'est...
c'est vrai.
Donc, très très bien. On veut passer maintenant, je pense, au premier film de la semaine. Il n'y a pas de musique.
Il est temps. Hein,
il n'y a pas de musique à mettre. Je stresse. Il y a tellement de choses à faire. Vous savez, c'est tout un programme ici. On passe au premier film de la semaine. Et ce n'est pas des moindres. Il s'agit tout simplement de Bird of Prey. Bird of Prey, c'est le titre complet. Est-ce que tu l'as ? L'indéboulonnable, un truc comme ça, Harley Quinn.
En français, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn.
Voilà. Donc c'est carabiné, un titre. Hein. Clairement, c'est un titre qui a beaucoup de promesses. Il s'agit ici d'un film, comme tu l'as dit, spin-off de Suicide Squad. Est-ce qu'on verra un jour Suicide Squad ? Oui. Hein, c'est James Gunn qui est en train de travailler dessus. Mais ce ne sera pas la même chose que ce qu'on a vu avec de David Ayer. Donc,
non.
Cette franchise, ce tournant-là d'ici est un peu obscur pour moi. Hein. Ils ont fait Suicide Squad, après ils ne savent pas très bien s'ils continuent. Ils continuent, mais en même temps, les autres, genre, il n'y a plus de Batman. Enfin, je veux dire, c'est compliqué quand même.
Je pense que tout ce que DC fait est assez obscur.
Est assez compliqué. Mais ici, ce n'est pas compliqué. Ils ont trouvé Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn dans Suicide Squad, qui était une révélation. C'est en tout cas un des meilleurs éléments du film.
Ouais.
Et très clairement, ils se sont dit, banco, elle est canon, elle a son costume, elle a vraiment le truc qui est super, ça lui colle à la peau. Faisons un film autour de ce personnage-là et on va l'entourer d'autres femmes, si j'ai cru comprendre, c'est un peu ça l'idée. D'autres femmes fortes, toutes des femmes un peu particulières aussi, dans une mission, comme toujours, déjantée. Est-ce qu'on se regarderait pas un extrait de la bande-annonce ?
Un harlequin, tu sais ce que c'est ? Le rôle de l'harlequin est de servir. L'harlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre, les honnêtes gens s'en tapent. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper.
Vous m'en voyez réjouir.
Mademoiselle Quinn, elle m'appartient.
Vous êtes qui, vous ?
Tu vas comprendre.
T'as besoin de moi !
L'éternité. Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes.
On ne sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes, n'est-ce pas ? C'est la phrase sur laquelle on arrête cette bande-annonce de la part de Harley Quinn. Vous l'avez compris, il sera question d'aller taper quelqu'un avec une batte de baseball tout en ayant l'air un peu déjanté. Cette fameuse histoire la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Alors qu'est-ce que ça donne, Thibaut ? C'est quoi ce nawak, j'ai envie de dire ? À quoi ça ressemble ? Est-ce que ça ressemble déjà à quelque chose ? C'est déjà la première question.
Alors, c'est du nawak, effectivement. Ah oh là là, Birds of Prey, que dire ? J'ai un gros problème avec ce film. Allons-y directement. Qui a été initié avec. Dans les films récents, par Joker, hein, qu'on se le dise. C'est que. On fait de ces méchants du cinéma des gens gentils pour lesquels. On essaie de te donner envie d'avoir de l'empathie, tu vois.
Oui.
Alors autant dans Joker, si le film n'est pas exempt de tout reproche, je trouve que ça fonctionnait bien. Et à la fin du film, t'avais quand même pas envie de prendre Arthur dans tes bras et de lui dire c'est pas grave, t'es un gentil garçon.
Je t'aime, Arthur.
Hein, voilà. Donc, je trouve que qu'ils avaient réussi à ne pas franchir cette limite-là. Ici, En fait, c'est vraiment un gros, gros problème. C'est qu'on te présente Harley Quinn comme une héroïne, du coup. Et tout ce qu'elle fait, c'est cool. C'est fait avec des beaux grands mouvements de caméra, des couleurs partout, de la musique pop. La violence, c'est cool.
C'est branché d'être Harley Quinn, quoi.
Bah ouais.
Alors qu'en fait, c'est censé être une méchante.
Bah oui, et je comprends pas qu'on en arrive à faire ce genre de truc au cinéma, en fait. Parce que on sait que faire des films sur des méchants, c'est quelque chose de risqué. C'est parce que tu peux pas tomber dans ces travers que je suis en train d'expliquer. Et donc, à partir du moment où tu peux faire le portrait d'un méchant, tu peux en faire un personnage principal de film, un héros dans le sens strict de personnage principal. Mais tu peux pas en faire un héros dans le sens un héros qui fait du bien, enfin comme les super-héros, les Spider-Man et autres, ou juste enfin quelqu'un qui fait de bonnes actions, qui est une personne qui est un exemple à suivre. Alors je dis pas que tout ce qui concerne le personnage d'Harley Quinn est à gerber, est dégueulasse, que c'est vraiment une grosse connasse qui ne fait que du mal. Tu vois que dans certaines actions parfois il y a un petit sursaut de lueur d'espoir,
oui.
Un petit bout de gentillesse qui est caché, parce qu'évidemment, comme tous les méchants, c'est une personne qui a des failles et qui, bref, il y a tout qui vient de quelque part, en fait, de l'enfance, d'ailleurs, voilà.
Comme sauf tous les criminels aussi dans la rue, enfin, je veux dire.
Le problème d'Harley Quinn, c'est que, et ça, il l'explique dès le générique, c'est qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause du Joker, en fait.
Oui.
C'était son patient, donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, c'est que le Joker était son patient à Arkham, et elle était psy. Hein.
Oui.
Et puis elle en est tombée amoureuse, donc voilà, la suite on la connaît un petit peu. En tout cas, ils en ont montré une partie dans Suicide Squad.
Et rappelons-le bien, aucun rapport avec le Joker de Joaquin Phoenix pour ceux qui nous rejoignent. Oui, et qui disent, parce que tiens, quel Joker, j'ai pas vu ça.
Non, voilà, effectivement, il n'y a pas de lien du tout. Je voulais faire un lien parce que c'est un film centré principalement sur un méchant. Et donc, je parle bien du film Joker avec Joaquin Phoenix pour le coup. Mais non, il est évident qu'il n'y a pas de lien au-delà de ça, parce que c'était pas un film qui rentre dans le cadre du DCEU, du DC Extended Universe, et donc l'univers étendu dans lequel c'est Jared Leto, pardon,
ouais,
qui incarnait le Joker, donc dans Suicide Squad. Et donc ici, en fait, le film se déroule, on ne sait pas exactement combien de temps après Suicide Squad. Mais le Joker et Harley Quinn ont rompu.
D'accord.
Et du coup, Harley Quinn, elle est un peu perdue. Et surtout, elle devient vulnérable, parce que tant qu'elle était avec le Joker, ça lui donnait une espèce de passe-droit. Elle se pensait
intouchable,
quoi, et elle pensait que tout lui était permis, ou presque. Et du coup, il y a pas mal de méchants qui ne faisaient rien. Elle pouvait les insupporter le plus possible. Il n'y touchait pas. Parce que voilà, t'as le Joker qui est
pas loin,
qui est là. Et c'était quand même une sacrée présence. Bah là, non, le Joker est fini. Et donc, Harley Quinn, elle va se retrouver avec des ennemis sur le dos. Une histoire de diamant qui va disparaître, qu'une petite voleuse, une ado, elle va s'en emparer. Du coup, forcément, les gens vont la rechercher, et Harley Quinn va elle va essayer de se sauver elle-même. Elle va essayer de retrouver le diamant pour le compte d'un gars qui veut sa peau. Bref, il y a pas mal de choses, pas mal de dilemmes, et sur sa route elle va tomber sur une flic, sur une fille, enfin le canari noir, enfin Black Canary pour les anglophiles, qui bosse pour ce fameux méchant qui est aux trousses d'Harley Quinn aussi. Donc bref, il y a pas mal de femmes qui vont se retrouver mêlées à cette histoire,
oui,
et dont les chemins vont se croiser.
Puis réalisé par une femme aussi d'ailleurs.
Oui, Cathy Anne effectivement, qui n'a fait qu'un long métrage avant ça, qui s'appelle Dead Pigs, un film dans lequel on retrouvait, si je dis pas de conneries, Zazie Beetz. qui jouait okay. dans le Joker avec Joaquin Phoenix.
Ça devient compliqué tout ça quand
tout
même.
Est lié, hein, tout est lié. Et donc voilà, Cathy Ann, elle sort un peu de nulle part, on va pas se mentir. Hein. Je sais pas trop où était passé Dead Pigs, mais à mon avis, vu le bazar, ça sent le Sundance et le petit film qui a fait un petit coup d'éclat.
Voilà,
et
des belles couleurs.
Du coup, elle est arrivée sur les radars des producteurs.
Oui.
Et du coup, elle était la personne toute trouvée pour faire un film cool de, entre guillemets, super-héroïne. Mm-hmm. En tout cas, une bande de filles, voilà.
Une bande de filles badass qui pète des bras, quoi.
C'est ça.
En rigolant.
C'est exactement ça. Alors, le film, il y a des choses intéressantes dedans, hein, parce que parmi tous ces personnages féminins, je pense qu'il y en a qui sont dignes d'intérêt. Mm-hmm. Mais globalement, on a quand même affaire à une belle bande de loseuses qui va essayer de tirer son plan un peu comme elles peuvent.
D'accord.
Voilà. C'est pas toujours facile pour chacune d'entre elles.
N'est-ce pas?
Ouais.
Tu as noté quelque chose aussi qui, moi, m'interpelle. Tu as noté aseptisé par rapport à ce film-là. Peux-tu un peu expliquer qu'est-ce que tu ressens par là, aseptisé? Parce que, est-ce que tu parles de la palette des couleurs ou quoi que ça? Parce que j'ai l'impression qu'au contraire, c'est peut-être une des forces du film, c'est ce côté visuel un peu. T'as pas l'œil, quoi.
Non, non, parce que justement, je trouve que. Enfin, c'est un des problèmes. On veut te montrer un film faussement cool, tu vois. Oui. Un peu comme. Et je trouve que. Birds of Prey a certains des mêmes problèmes qu'avait Suicide Squad. C'est-à-dire que Suicide Squad, un des gros problèmes qu'il avait, par exemple, c'était de te foutre plein de morceaux de musique cool, mm-hmm. Que ce soit des morceaux de rock, de rap, de R&B, enfin peu importe. Et ça n'avait aucune cohérence, ça ressemblait à rien, mais ça faisait genre, on a un gros budget, on a tapé dans plein de chansons cool, et voilà, tiens, on te donne du cool, on te jette du cool à la gueule, quoi. Et ici, alors il n'y a pas spécialement ce problème des musiques qu'il y avait dans Suicide Squad, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, il y a plein de couleurs, il y a plein de mouvements un peu sympas, il y a des kills, des moments où Harley Quinn tue des gens, ou voilà, mm-hmm. des trucs qui sont filmés de manière un peu sympa, tu vois, et ça donne ce côté faussement cool, je trouve, au film, qui en plus, comme je le disais au tout début de la critique, est problématique parce qu'on te rend un personnage détestable, sympathique. Et à partir de ce moment-là, ben, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, je trouve que ce côté aseptisé, alors aseptisé, peut-être pas le mot idéal, mm-hmm. mais on te jette un produit...
Attention, quand tu veux dire détestable, sympathique, on le dit bien parce que ça peut prêter un peu à confusion. Walter White... est détestable, mais on a une empathie pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est sympathique. Et ici, tu veux dire que c'est l'inverse. En fait, c'est une mauvaise personne, mais on ne va pas essayer de te montrer, te faire un peu culpabiliser de l'aimer, entre guillemets. On va plutôt te dire, bah, en fait, elle est géniale, regarde-la, tu vois, et la vendre un peu comme une super-héroïne.
Ouais, c'est un peu ça.
Ok, c'est ça. Donc, c'est l'exagération du... Allez.
Ouais, parce que malheureusement, je trouve que ses défauts, ses qualités sont pas assez, en tout cas sa nature humaine est pas assez mise en avant, et puis c'est ce qui fait qu'elle est une sadique sanguinaire, si je puis dire. Il y a pas beaucoup de background là-dessus, de développement, et donc forcément je trouve que ça peut pas fonctionner. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment ça le problème principal du film, c'est de faire un truc, un petit bonbon pop à propos de quelqu'un qui n'est pas, enfin qui, tu peux pas mettre une telle personne en avant de cette façon-là, voilà, je trouve.
Non,
c'est comme si tu faisais un film sur Kim Jong-un, je dis bien un film et pas un documentaire, et que, en fait c'est comme si Kim Jong-un c'était le mec de The Interview, quoi, tu vois.
Oui.
Tu vois, tu te souviens de ce film avec Seth Rogen, etc. Mais là, c'est une satire, c'est complètement débile, donc on s'en fout, tu vois. Tu peux faire ça, mais...
Au premier degré, ce serait un peu bizarre, quoi.
Ouais, alors ici, je dis pas que c'est complètement premier degré, mais... voilà, je trouve que c'est très problématique, et pour moi, ça fonctionne pas.
C'est un no-go.
Tu peux pas faire ça, dans des films aussi grand public, en plus. Ouais. Donc, voilà.
Combien d'étoiles, du coup, pour Birds of Prey?
Bah, une, parce qu'il y a quand même des choses qui ont un peu d'intérêt, qui sont un peu sympas au niveau des autres personnages, enfin des personnages secondaires notamment. Et puis il y a des scènes malheureusement cool. Et donc c'est ça le problème. Voilà. Bref, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit.
Non.
Mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont vraiment cool, mais c'est vraiment gênant que ce soit avec un personnage comme ça, quoi. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc une étoile pour Birds of Prey, c'était ta critique du film.
On va Margot Robbie est toujours aussi géniale, hein, quand même, il faut que je le précise, parce que c'est vrai que j'ai un peu passé, je suis vite passé là-dessus, mais elle est géniale et elle est parfaite pour jouer Harley Quinn, qu'on se le dise.
Oui, je pense que c'est la trouvaille de DC, hein, clairement, de ces dernières années. On passe tout de suite, la transition a déjà été faite à l'écran, au Magritte 2020, les 10 ans des Magritte du cinéma, et au palmarès, hein, de cette cérémonie à laquelle nous avons assisté Thibaut. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une transition pour que vous puissiez profiter des magnifiques photos qui nous ont été envoyées par Pierre-Yves Jortet. Et donc voilà, je les mets en boucle, comme ça vous les avez pendant qu'on discute tranquillement des Magritte.
Alors, on en partagera peut-être un peu sur notre page Facebook, voire notre Instagram éventuellement, comme ça vous pourrez apprécier le travail de notre ami Pierre-Yves.
Exactement. Donc du coup, si on revient sur le palmarès Thibaut, on a eu un début de cérémonie assez plaisant.
Avant d'aller dans le détail, et encore même si je pense qu'on va pas tout faire, on a été quand même plutôt bon niveau pronostic. Hein. Il y a eu quelques foirages. Meilleur film, etc. Mais globalement, je pense qu'on s'est quand même plutôt bien débrouillé.
Oui, non, clairement, on a été plutôt bons. Notamment parce qu'on a bien prédit le meilleur espoir féminin et le meilleur espoir masculin.
Notamment.
Pour commencer.
C'était qu'un début, mais oui.
C'était tout à fait le début de la soirée. On a eu meilleur espoir féminin, Mia Bollars pour Lola vers la mer. Et meilleur espoir masculin, c'était Idir Benadi pour le jeune Ahmed, que nous avons eu à notre micro. Connaissez bien notre chaîne YouTube Cinécast, vous allez pouvoir trouver la vidéo des Magritte. Et important de le signaler, n'oubliez pas que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez chaque semaine remporter 2 places de cinéma UGC. On allait oublier de le dire carrément, mais on ne l'oublie pas.
Oui, puis on le répétera à la fin.
Exactement.
Pour ceux qui ne sont pas attentifs. Ceux du fond là-bas.
Ceux du fond, et on t'a vu. Voilà. Donc, ça c'était le début de la cérémonie. Ensuite, on est passé au meilleur scénario original ou adaptation. Et là, on a commencé à avoir une petite tendance. En tout cas, ça a commencé là.
Très clairement.
Olivier Masset de Passe et Giordano Guiderlini qui ont remporté le prix pour Duel.
Ouais. Alors, petite précision, Giordano Guiderlini, qui était aussi le scénariste de Tueur l'année dernière,
ouais.
Et qui est également le scénariste des Misérables.
Exactement.
Donc, le gars, depuis 2 ans, il se fait quand même effectivement du beau boulot et il se fait plaisir.
Exactement, une très belle année pour lui. Et donc, du coup, Duel, meilleur scénario. Duel qui sera également adapté aux États-Unis dans pas très longtemps.
Olivier Masset de Passe va réaliser un remake aux États-Unis avec Jessica Chastain et Anna Taoué dans les rôles principaux.
Boum. Le cinéma belge a fait allure quand même. Hein. On voit des représentants. C'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, il y avait meilleur premier film César Diaz pour Nuestras Madres.
Mais qui était une obligation.
Ouais, je pense que là...
Je veux dire, le film remporte la Caméra d'Or à Cannes, qui est quand même un prix majeur, je pense. C'est quand même le prix qui récompense le meilleur premier film dans toutes les catégories, dans toutes les sélections cannoises. Pas juste la sélection officielle, mais aussi la Semaine de la Critique, la Quinzaine des réalisateurs, etc. Donc c'est quand même un gros prix. Et si l'Académie Delvaux, donc, qui récompense le meilleur du cinéma belge, ne récompensait pas ce film au moins de ce prix-là, ça aurait été un peu bizarre. Même si, pour ma part, je le répète pour ceux qui n'ont pas regardé nos pronostics, mais j'espérais que ce soit Pour vivre heureux qui remporte le Magritte du meilleur premier film, et j'espérais que Nuestras Madres remporte celui du meilleur film.
Exactement.
Magritte qu'il n'a pas eu.
Non. Si on va un peu plus loin dans la sélection, parce qu'il y a eu pas mal de récompenses au total, mais on ne va pas toutes les faire plus.
Oui, tous les Magritte techniques. On
passe pas au Magritte d'honneur, ça.
Mais globalement, Duel, on a remporté quelques-uns.
Magritte d'honneur.
Un petit peu vers la mer, Seul à mon mariage aussi. Et puis Magritte d'honneur, la grande et belle Monica Bellucci.
C'est pour ça que j'essaie de venir avec ça, parce qu'elle est à l'écran pour l'instant. Monica, la belle Monica, elle était à l'écran. Qu'on a eu également en interview, donc sur la vidéo que vous avez sur la chaîne Cinécast. On était bien placés hein, pour les interviews, je crois que...
Écoute, j'ai cru mourir, mon cœur s'est arrêté l'espace d'un instant, mais ça va.
Et c'était un exercice...
Sa beauté m'a maintenu en vie.
Et c'était un exercice assez difficile hein, de faire les interviews, parce que c'est tout le monde qui... qui te pousse, et donc avec ta caméra, tu n'as pas beaucoup d'angle.
Oui, c'est ça. Il y a
peu penché les trucs, c'est un peu artisanal.
Il y a certaines interviews de lauréats, t'es pépère parce que voilà, chacun son tour, c'est comme ça. Mais alors quand c'est Monica Bellucci, il y a vraiment tout le monde qui s'agglutine autour de toi.
T'étais le premier avec un micro, un beau micro jaune.
Ah ouais.
Boum, directement, t'as envoyé les gens, donc ça c'était pas mal. Bon, on connaît aussi l'attaché de presse qui s'occupe à diriger les gagnants, donc c'est toujours sympathique.
Les récipients. Comment on dit récipientaire ? Bref.
Les gagnants ou les gagnantes, voilà.
Oui.
Les lauréats.
Oui.
Donc,
j'avais envie de faire semblant d'être intelligent.
Oui.
Échec.
C'est raté. meilleure musique originale, c'est Duel. Meilleur son, par contre, c'est Duel. Donc on continue. Hein. Il y avait eu d'autres récompenses techniques.
Autant le dire tout de suite, il a eu 9 Magritte sur 10 nominations, voilà, je pense. C'est peut-être un record historique.
Je crois que c'est le record, c'est ça, tout à fait. Meilleur film flamand de Patrick, tu l'avais prédit également.
Ouais.
Donc c'est la seule fois, je pense, qu'on a vu de Patrick avec une récompense, malheureusement, parce que ce film aurait peut-être pu mériter plus. Meilleur costume.
Oui, bon, je pense qu'il y a plein de films qui mériteraient plus, mais c'est pas la question.
Meilleur acteur dans un second rôle.
Faut faire des choix.
Là, c'était un peu triste quand même. Le meilleur acteur second rôle et acteur, parfois ils n'étaient pas là, donc c'était un peu dommage.
Ah,
c'est
oui.
Dommage qu'ils soient pas là. Je pense à Harry Warthalter qui n'est pas venu pour Duel.
Non. Et qui fait un doublé parce qu'il avait eu le même prix l'an dernier pour Girl. Et c'était une des plus belles révélations. Enfin, une des deux révélations de Girl avec l'acteur principal Victor Polster. Mais voilà, Harry Warthalter depuis Girl, je pense qu'on peut dire qu'il explose.
Tout à fait. Harry Potter, du coup, il y avait meilleure réalisation, bah, le film Duel, hein, Olivier Massé de Passe, boum, encore une fois. Meilleur documentaire, Mon nom est Clitoris, on avait mis dans nos envies, mais pas dans nos pronostics, donc
oui.
Pas mal.
Meilleure actrice dans un second rôle, c'était aussi pour le jeune Ahmed, c'était Myriam Akeydiou.
Exactement.
Donc quand même, les Dardennes, c'est que j'en discutais le lendemain de la cérémonie sur LN24, où j'étais invité. Et on en parlait, donc on faisait un débriefing de la cérémonie. Et c'est vrai que les Dardennes ont un peu été snobées, mais depuis le début de leur carrière, leurs comédiens sont récompensés quasiment pour chaque film. Et quand même, ils sont récompensés, donc les frères, à travers leurs comédiens aussi. Donc je pense que quand tes comédiens remportent des prix à chaque fois ou presque, ça montre quand même que t'es un excellent directeur d'acteur. Et donc c'est bien de rappeler aussi que les Dardennes sont d'excellents directeurs d'acteurs. Voilà.
Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a remporté. Meilleur documentaire, donc Mon nom est Clitoris, on vient d'en parler. Meilleur film étranger en coproduction, c'est Sorry We Missed You de Ken Loach, qui est très apprécié en Belgique. Hein. Ken Loach, ses films en général. Donc,
Il est produit par les Dardennes, d'ailleurs.
Exactement. Donc voilà, ils ont quand même eu quelque chose pour tout ce qui est production, réalisation, parce qu'ils sont un peu en partie baudruille là-dessus, tu l'as dit. Ensuite, on a le meilleur acteur, c'est Bully Lanners dans C'est ça l'amour, qui n'était pas là. Meilleure actrice, Verle Battens, qui était là par contre pour Duel, et qu'on a eu à notre micro également. Et meilleur film, Duel, de nouveau. Ouais. Donc rien que ça.
Dis-moi.
Des belles récompenses, je veux dire, en général. Hein.
Ah bah, bien sûr. Il n'y a pas de prix vraiment honteux où tu te dis, oh non, là, ça aurait dû être absolument tel truc ou tel truc. Donc voilà, mais si vous n'avez pas eu l'occasion... n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube donc cette vidéo avec les réactions de certains lauréats dont Mia Bollars, Monica Bellucci, Verle Battens notamment, Olivier Massé de Passe aussi avec son scénariste Giordano Giderlini.
Exactement.
Donc voilà, on a eu des chouettes réactions.
Tout à fait. Donc on peut retourner peut-être à nos moutons.
Mais oui.
À nos habitudes, ou en tout cas au deuxième film de la semaine. Film avec la ravissante Keira Knightley. Keira Knightley, ça fait un petit temps qu'on ne l'a pas vue. Enfin, si, on la voit chaque année, mais en général, on la voit dans des films... des films à costume ou des films en SVOD, hein, qu'on se le dise aussi. Il y avait Colette, je pense que ça c'était l'année passée.
Qui est sortie en salle.
Mais c'est toujours des films parfois un peu discrets. Pourtant, je trouve que cette actrice... a du talent et elle est clairement... elle a sa place dans le cinéma, que ce soit anglais, mais aussi international. Et donc, c'est vrai que depuis, on l'a un peu moins vu à l'international, mais plutôt dans son pays natal. Et là, nous revient avec Official Secrets, un film qui se déroule en 2003, en pleine crise de la guerre. Est-ce qu'on va aller en Irak, un peu le post 9/11, hein, mais forcément, pas qu'un peu. Et surtout, est-ce que l'Angleterre va participer également à cette guerre? Comment? Oui. Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'il y a un peu les dessous politiques de cette décision? Et on va suivre ça par le regard de Keira Knightley dans ce film-ci. Je propose qu'on se passe un extrait de la bande-annonce, si t'es d'accord.
Allons-y.
What we know is that Saddam has this material.
On n'en sait rien, il répète toujours les mêmes salades. C'est pas parce que t'es Premier ministre que tu peux te permettre de déformer la réalité.
Quelqu'un dans ce bâtiment a trahi son gouvernement et sa patrie. S'il s'avère que vous avez caché des informations, vous serez poursuivi pour atteinte à la loi sur le secret d'État.
Catherine Gunn, qui a pu, d'après vous, révéler le mail de Cosa?
J'ai quelque chose que tu dois voir.
Qui t'a filé ça?
Une amie. Fais gaffe. Si le mémo est vrai, l'avoir sur toi peut t'envoyer en prison.
Vous êtes une espionne. Vous travaillez pour le gouvernement britannique.
Non, moi je travaille pour les Britanniques. Je ne recueille pas des données électroniques pour que l'État mente aux Britanniques.
Les renseignements sont peut-être manipulés pour que l'Angleterre entre en guerre.
Voilà, voilà. Est-ce que les renseignements sont manipulés pour que l'Angleterre rentre en guerre? C'est ça la question sur laquelle on termine cette bande-annonce.
Je pense que la réponse est dans la question.
Mais non. Mais non, pas du
tout.
De quoi tu parles? Y a pas... Ça n'existe pas la corruption, ça n'existe pas les problèmes politiques, les bakchiches, etc. C'est quoi ce monde? Donc oui, en effet, bon, c'est un film thriller, hein, clairement, haletant, réalisé par Gavin Hood. Alors, qui est Gavin Hood? Honnêtement, je n'avais jamais entendu son nom.
Pourtant, il a fait pas mal de films dont on a entendu parler quand même.
Vas-y.
Je pense que le plus connu, celui avec lequel il s'est fait vraiment révéler, c'était Mon nom est Tsotsi en 2005. Peut-être que ça te dit vaguement quelque chose.
Non.
Alors depuis, il a fait des trucs dont ils sont pas dingues. Il a même fait un des pires films de la saga X-Men. Le spin-off sur Wolverine. X-Men Origins.
Ah oui, d'accord, avec Taylor Kitsch.
Ça faisait mal quand même, hein. Ça faisait très mal. Et puis un peu plus tard, il a fait la stratégie Ender et puis Eye in the Sky en 2015 qui parlait de drones, enfin de guerre et de drones.
Okay.
Et puis là, Official Secrets avec Keira Knightley et donc effectivement des secrets d'État. Est-ce que... Et surtout une personne qui va leaker des secrets d'État.
Oui, mais
qui vont compromettre un petit peu l'entrée de l'Angleterre dans la guerre.
À t'entendre, en faisant un peu le résumé du réalisateur, on peut s'attendre à un film pas très bon, hein, parce que tu dis voilà, il a fait des films pas terribles, pas toujours, il a une carrière un peu en demi-teinte. Là, c'est quoi? C'est un retour aux sources, c'est un retour à l'efficacité peut-être pour le réalisateur en faisant un film plus maîtrisé, un thriller.
Ah oui, oui, clairement, il retrouve le. Allez. Ce film-ci va se placer dans le bon côté de sa carrière.
Ah,
voilà.
Donc un bon film d'espionnage anglais.
Ouais.
Un peu politique, ça c'est toujours des.
Mais c'est pas vraiment un film d'espionnage. Je dirais que c'est plutôt un film de contre-espionnage.
Un peu The Report.
Enfin, c'est Snowden en fait.
Oui.
Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je vais caricaturer. C'est pas tout simplement Snowden.
C'est tout simplement Snowden.
Mais c'est une employée des services de renseignement britanniques qui va dévoiler une note de la NSA.
Oui.
où les services américains demandent l'aide des services anglais pour trouver des informations compromettantes sur certains pays afin de les faire chanter et qu'ils aillent voter en leur faveur lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. T'as quand même une note officielle de la NSA qui demande à ton pays de trouver des informations sales sur d'autres pays afin d'avoir leur vote en faveur de la guerre en Irak. C'est quand même costaud. Voilà.
C'est clair. C'est assez costaud Et il y a de quoi justement raconter une histoire où on se sent mal. Plus le film avance, plus on dit « Oh mais c'est pas possible quand même !» Et alors on est vraiment derrière ce personnage-là. Enfin, tout comme des films. Moi, j'adore les films comme ça, un peu de comme tu dis, de contre-espionnage, où le but, c'est d'essayer de renverser la table, entre guillemets, sur tous les jeux de politique. C'est toujours assez captivant. Est-ce que là, il réussit à nous emmener avec le personnage notamment de Keira Knightley dans ce monde-là, dans cette aventure-là ?
Bah oui, clairement, parce que... En fait, c'est le genre de film qui est assez classique dans sa façon de faire, c'est ce qu'il raconte, etc. L'enjeu, c'est est-ce que Keira Knightley va se faire... est-ce que Catherine Gunn va se faire attraper ou non ? Et si oui, quelles seront les conséquences de ses actes ?
Oui.
Techniquement, c'est de la trahison, ce qu'elle fait.
Oui, oui, clairement.
Tout comme elle dévoile des secrets d'État, donc ça va leaker dans la presse, etc. C'est quand même... Les conséquences et les enjeux sont très importants. Donc, voilà, assez classique dans sa façon de faire, mais de par son sujet, c'est hyper prenant, hyper haletant. T'es quand même... T'es avec elle, en fait. T'as envie de savoir si, déjà, oui ou non, elle va liker les informations. Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? Comment, etc. Qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce qui va découler de ces actes ? Donc, même si globalement tu sais, moi je connaissais pas l'histoire avant, mais tu sais qu'elle va liker le truc à un moment, sinon tu fais pas de film.
Oui.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le résultat est intéressant, mais c'est plutôt comment tout se déroule qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on fait quand même des films sur des histoires vraies, même si. Même celles dont on sait la fin, genre Valkyrie, tu sais que Hitler meurt pas dans le bunker, pourtant tu regardes le film parce que tu veux savoir ce qui se passe et comment tout ça s'est passé.
Et si c'est un film de Tarantino, tu sais qu'il va peut-être changer l'histoire.
Aussi.
Ce qui est parfois possible.
Tu sais qu'Hitler meurt. Non mais voilà, donc adapter des histoires vraies n'est pas gênant, même si on sait, et même quand on ne connaît pas vraiment l'histoire, on se doute de la fin, ou en tout cas de certaines des actions du film. Donc malgré tout ça, je trouve ça très bien que Gavin Hood ait réussi à faire un film prenant, un excellent thriller, très haletant. Après, personnellement, j'ai des affinités quand même assez particulières pour les films qui traitent de politique, de géopolitique, d'enjeux politiques, militaires, etc. Donc forcément, voilà, je suis assez vite pris par ce genre de film. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des gens, en fait. Parce que tu peux pas être complètement insensible face à ce genre d'histoire, parce que ça nous remet dans la figure énormément de choses du passé. On est quand même en 2003 à ce moment-là, mais aussi actuelles. Parce que Snowden, ça reste quand même relativement récent, début des années 2010, si je dis pas de conneries, 2011, 12, enfin bref.
Oui, on est dans ces eaux-là, oui.
Presque 10 ans plus tard, rien n'a changé, ou presque. Enfin non, c'était peut-être un peu plus tard, Snowden, quand même. Mais, je veux dire, ces enjeux, ces problèmes-là sont vieux comme le monde et sont au cœur de l'actualité depuis longtemps maintenant. C'est toutes ces questions de surveillance, de pouvoir qu'ont les services de renseignement de certains pays. Enfin bref, il y a plein de questions sociétales et pertinentes de manière générale qui sont posées dans le film. Donc je pense que c'est clairement un film relativement grand public qui peut plaire à plein de gens, qui n'est pas trop cérébral. Hein, on ne va pas faire réfléchir le spectateur à outrance non plus.
Mm-hmm.
Mais voilà, c'est le genre de petit coup de pied au cul qui fait du bien de temps en temps, un peu comme un peu plus récemment aussi The Report, le film avec Adam Driver dont on vous a parlé aussi dans un podcast en fin 2019. Donc voilà, tous ces films qui questionnent la politique principalement américaine et ici anglaise aussi, je pense que ce sont des films importants et relativement essentiels. Et donc, rien que pour toutes ces qualités liées au sujet, notamment, c'est un film à voir.
Ok, du coup, tu donnes combien à ce film que tu recommandes très chaudement ?
Ben, un bon 2 étoiles, parce que bon, ça renouvelle pas tout le bazar non plus. Hein. C'est un film de plus qui s'inscrit dans une certaine dynamique. Hein, donc c'est, je vais pas en faire un chef-d'œuvre. Mais voilà, il a pas mal de qualités dont j'ai parlé. Plus d'autres qualités. Keira Knightley, je trouve que ça fait un moment qu'elle n'avait pas été aussi bonne. Donc ça fait plaisir de la voir dans quelque chose un peu rafraîchissant d'une certaine façon. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses dans ce film et on passe un bon moment qui fait réfléchir aussi, mais voilà, tout en restant relativement divertissant. Et puis avec ce film, on découvre la personnalité de Catherine Gunn. Mm-hmm. Je vais pas dire ce qui lui arrive et où elle en est maintenant. Vous découvrirez ça avec le film, mais voilà, je pense que c'est ce genre de personnalité qui est nécessaire, hein, les lanceurs d'alerte.
C'est clair, surtout aujourd'hui, hein, les abus avec les data et tous ces trucs-là sont de plus en plus présents.
Ouais. Mais donc c'est bien de les mettre en avant.
Exactement.
Et le cinéma est là aussi pour ça.
Deux, si je ne me trompe pas.
Deux
étoiles pour Official Secret avec Keira Knightley qui est en bonne forme. Hein. Keira Knightley enchaîne des bons films, des solides prestations aussi. Donc on a
Oui. Bon, c'était pas mal dans Colette, c'était pas mal. Mais
c'est pas mal, c'est pas la même chose. Hein. Celui-ci a l'air d'être plus. D'un meilleur calibre.
Oui.
Mais aussi peut-être parce que l'histoire te plaît plus. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On va passer au sujet suivant. Il s'agit des BAFTA, donc, qui ont eu lieu également ce week-end en Angleterre. On reste en Angleterre, hein, tant qu'on y est. Comme on a dit en début d'émission, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Si on regarde ici le palmarès ensemble, je vais commencer par des catégories plus avancées, bien sûr. Le meilleur montage, bon, bah, c'est le Mans 66 Ford versus Ferrari. Même si on va plus loin, en meilleure cinématographie, c'est Roger Deakins pour 1917. Grande surprise.
Non.
Tout à fait mérité, en tout cas. Meilleur casting, donc c'est Shayna Markowitz pour Joker.
Oui, donc c'est, meilleur casting, c'est vraiment un... l'ensemble hein, des oui, comédiens, c'est un prix général, enfin global.
Qui n'est pas
assez surprenant Oscar. Quand même Joker, hein, alors que t'avais Parasite et ce genre de trucs.
Ou un couteau tiré ou des trucs comme ça. Quoi.
Ouais,
c'est vrai que
surprenant.
C'est assez surprenant. Meilleure musique originale, Ildur, Gunnadottir pour Joker.
Attendu.
Attendu, oui, bon, oui, c'est vrai, il n'y a pas eu Johnny Greenwood cette année pour les BAFTA. Meilleur acteur dans un second rôle, et là, c'est pas une surprise, Brad Pitt.
Qui a fait une excellente blague. Alors, il n'était pas là.
J'ai pas vu. Donc
c'est Margot Robbie. C'est Margot Robbie qui a pris, enfin qui a pris le prix à sa place. Et donc, elle a lu un discours que Brad Pitt avait préparé et elle a terminé le discours en disant que Brad allait appeler son BAFTA Harry, comme ça, il pourrait le ramener aux États-Unis. Petite blague qui a bien fait rire l'Assemblée, dont le prince William et son épouse Kate quand même. Donc voilà, petite blague.
Donc elle a lu le discours.
En référence à Harry et Meghan qui se détachent de la royauté, de la couronne. Voilà.
Qui auront la saison 6 de The Crown sur Netflix. Non, ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de saison 6.
Oui, ils vont s'arrêter à la saison 5.
Exactement. Meilleure actrice dans un second rôle, pas une grande surprise non plus. Laura Dern dans Marriage Story, excellente avocate... sans pitié. Meilleur acteur, Joaquin Phoenix pour Joker. Et là, par contre, il y a quelque chose à dire, c'est surtout par rapport à son discours.
Ah oui.
Bah, il en a profité tout simplement hein, pour parler de la migration, de la crise migratoire et notamment de la réaction de l'Occident face à cette problématique. Le fait qu'on ferme les yeux hein, sur ces problèmes humains et qu'au contraire, on envoie un message de fermeture plutôt qu'un message d'ouverture. C'est plus ou moins ça, si je résume, mais il n'a pas dit que ça. Fin...
Non, il a dit aussi, et je pense que c'est le truc que les gens retiennent le plus, c'est la place des acteurs de couleur dans le cinéma. Et il a dit qu'il était conscient de faire partie du problème, en fait, parce qu'effectivement, certaines personnes n'ont pas certains rôles parce qu'ils n'ont pas les mêmes privilèges en fait. Donc,
il concentre ses privilèges en tout cas.
C'est
parce
ça,
que
c'est exactement ça.
C'est, bah, allez, dire que c'est lui responsable du problème en partie, je
ne
pense
alors,
pas.
C'est pas. Non, c'est pas lui personnellement, mais c'est. Si, c'est un des problèmes.
Il contribue.
Oui, c'est ça.
En fermant les yeux, en acceptant de se taire parfois dans des réunions ou autres, parce que c'est sans doute qu'il a déjà été confronté à des situations lors de casting ou autres, où ils ont dit ouais, non, on prend pas lui. Enfin...
Non, mais je pense que c'est pas aussi précis que ça. C'est juste que voilà, c'est un homme blanc et donc il est privilégié par rapport à un acteur noir. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il voulait le dire. Il a quand même terminé en, son, son discours en disant qu'il pensait qu'on envoyait un message très clair aux personnes de couleur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Tonnerre d'applaudissements quand même dans l'Assemblée, sincère ou pas, je ne sais pas, je pense que oui.
En fait, il est en train de faire campagne pour ne pas avoir
l'Oscar. Les gens du cinéma sont quand même censés être des gens libéraux, de gauche, machin, hein, officiellement. Donc, voilà, je pense que c'était quand même un discours plutôt bien accueilli. Et je pense que c'était important quand même de le dire, parce que même si on voit de plus en plus d'ouverture dans les films, il y a quand même souvent des problèmes, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, c'est bien qu'un acteur de sa position en profite. Mais ce n'est pas le seul discours qui a fait un peu fureur lors de la cérémonie. Il y a aussi Rebel Wilson, qui a taclé dans le même style, les réalisateurs surtout. Et elle a dit une phrase en particulier, elle a dit « Je regarde tout le talent qu'il y a dans cette catégorie, et je ne crois pas que je pourrais faire pareil, parce que, honnêtement, je n'ai pas les couilles. » Petit tacle au fait qu'il n'y ait pas assez de femmes nommées dans la catégorie réalisation. Donc voilà, deux discours notamment qui ont pas mal fait parler d'eux, globalement pour de bonnes raisons, hein, on va pas se mentir.
Non, c'est clair, c'est des problématiques et c'est des sujets qu'il faut absolument mettre sur la table et aussi faire en sorte que ça change.
Mais, ça, c'est sûr.
Mais tout ça, c'est du côté des productions que ça doit changer. Voilà,
oui, bien sûr. Oui. Les acteurs en soi ont tous la volonté de travailler, hein, que ce soit des femmes ou des hommes, mais par contre, c'est pas eux qui font le choix. Et c'est surtout aussi dans la manière d'écrire, de concevoir les histoires, il faut parfois sortir aussi de son personnage d'homme blanc.
Mais oui.
C'est très compliqué de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre quand on n'est pas cette personne.
Ouais.
Par exemple, moi, si demain je dois écrire un film, par défaut, je vais prendre un personnage homme masculin, sans doute blanc, sans doute dans une situation plus ou moins similaire à la mienne, parce que c'est mon inspiration. C'est plus difficile de dire je vais écrire l'histoire d'un Syrien qui arrive à Bruxelles. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de se mettre dans ce personnage-là que...
Je pense que le problème n'est pas là. C'est assez naturel, effectivement, que chacun écrive sur des situations proches de... En tout cas,
des cultures,
des personnages proches d'eux. Mais je pense que le problème vient plutôt du fait que les productions, de manière générale, ne donnent pas les mêmes opportunités à tout le monde, que ce soit les comédiens ou les scénaristes, réalisateurs de, alors je veux dire bêtement, d'autres couleurs, en tout cas d'autres cultures, d'autres univers, d'autres mondes. Et c'est plutôt ça le problème, je pense. Mais enfin, voilà, il faut que les choses changent aussi. Parce que je pense que, quand même, chaque année, dans les cérémonies, et plutôt dans le monde du cinéma de manière générale, on voit qu'il y a énormément de richesses un peu partout, notamment dans le cinéma étranger. Et quand je dis étranger, je veux dire non anglo-saxon, voire non francophone aussi. Donc voilà, il faut encourager tout cela.
Très clairement. C'est en tout cas le message des BAFTA. Il y a d'autres choses aussi qui sont passées par rapport surtout au prix. Hein. Donc, meilleure actrice, c'est Renée Zellweger qui a gagné pour Judy. Taika Waititi pour Jojo Rabbit pour scénario adapté. Donc, ça, c'est une belle surprise. Je suis pas sûr qu'il gagnera la même chose aux Oscars.
Je pense pas.
Meilleur scénario original, c'est Bong Joon-ho pour Parasite avec Han Jin-won.
Alors, je sais pas si t'as vu, mais vu qu'ils enchaînent les cérémonies de récompense depuis un moment, Taika Waititi et Bong Joon-ho, ils se quittent plus d'une semelle. Suffit de regarder un peu les comptes Twitter de l'un ou de l'autre. Enfin, ou Instagram, je sais pas exactement.
Ils s'entendent bien, quoi.
Mais tu vois souvent, je pense qu'ils étaient l'un à côté de l'autre dans l'avion entre je sais plus quelle cérémonie aux États-Unis et puis les BAFTA. Enfin bref, ils se quittent plus d'une semaine. Ça a l'air d'être une nouvelle bromance assez rigolote.
C'est ce qu'on leur souhaite. Donc, meilleur scénario, c'est ça. Meilleure réalisation, c'est Sam Mendes pour 1917. Pas une grande surprise.
Non.
Meilleur film animé, c'est Klaus. Et là, c'est une surprise.
Effectivement.
Où est Disney ?
Pas là, et c'est bien. Alors, j'ai toujours pas vu Klaus, mais Netflix a quand même gagné quelque chose.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Oui, c'est un film Netflix, faut pas l'oublier. Un très beau film d'animation, apparemment. Voilà, qu'il faut que je rattrape, comme je disais. Mais écoute, je pense que c'est plutôt bien vu comme récompense, hein, et je n'ai vu que de bons échos.
Ensuite, il y a meilleur documentaire, ça c'est Forsama. Je pense pas que tu l'avais vu.
Non.
Meilleur film en langue étrangère, Parasite de Bong Joon-ho, grosse surprise. Il y a un prix assez intéressant, je trouve aussi au BAFTA, c'est le prix des meilleurs débuts pour un producteur, un réalisateur ou un scénariste britannique.
Ouais.
Ça, c'est particulier. Bon, je ne vais pas les mentionner parce que je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas qui c'est.
Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc,
en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce genre de prix parce que ça me permet de mettre les projecteurs non pas sur le meilleur premier film, mais aussi sur les meilleurs premiers pas de personnes dans l'industrie. Donc, c'est toujours intéressant. Surtout pour aller décrocher les petits talents à gauche à droite,
ouais,
quand on est un studio. Meilleur film britannique, 1917 de Sam Mendes, et meilleur film tout court, 1917 de Sam Mendes, décidément. Faut dire, 1917, britannique, BAFTA.
C'est obligé.
Voilà, c'est assez rapidement fait, hein, le lien est fait. Surtout que c'est un film qui a cartonné en Angleterre, et, tout à fait logiquement.
Ouais.
Voilà. Qui résume un peu les BAFTA. Je ne sais pas si tu avais encore autre chose à dire sur cette cérémonie.
Non, je pense qu'on a fait le tour quand même, même un peu plus que ce que je pensais qu'on allait faire.
D'outre-Manche, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ça nous vient de là.
Outre-mer du Nord pour nous, je pense qu'on va dire.
Oui, je me voyais déjà au Nord-Pas-de-Calais. Passons au prochain film de la semaine, dernier film de la semaine, Une vie cachée de Terrence Malick.
Oui, qui est déjà sorti fin décembre en France. Hein, oui. Donc, oui. Mais voilà, toujours un petit peu en retard sur certaines choses. Enfin, parfois c'est dans un sens, parfois c'est dans l'autre, mais non, pour une fois, c'est nous qui sommes assez en retard sur une sortie. Une vie cachée de Terrence Malick.
Alors là, Terrence Malick, bon, garde sa patte, hein, donc on a des plans, des caméras qui virevoltent, qui sont smooth, qui suivent quelqu'un qui fait du vélo, qui va dans un champ, et c'est des trucs très envolés, très aériens. Mais non, il n'y a pas de bande-annonce, parce que c'est en anglais uniquement, voilà, c'est titré, donc j'ai pas mis de bande-annonce.
Oui, c'est pas plus mal qu'ils aient pas... qui n'est pas doublé.
C'est compliqué. Moi, non, j'ai dit en anglais sous-titré. C'est pas en anglais sous-titré, c'est sous-titré français. Enfin, c'est un peu galère. Donc, j'ai pas une bande-annonce.
Okay, d'accord, pas d'extrait de bande-annonce.
Donc voilà. Film, par contre, où tu sais, Terrence Malick, récemment, il avait fait beaucoup de films aux États-Unis avec des acteurs et des actrices assez connus.
Christian Bale.
Voilà. Ryan Gosling, notamment.
Ouais, Nathalie Portman.
Rooney Mara,
c'est ça.
Et donc, des trucs très. On réfléchit sur l'art, sur la place des acteurs, la place des chanteurs. C'est ça, sans que ça.
J'aimerais bien que tu arrêtes de te moquer comme ça de Terrence Malick, s'il te plaît, et de ses films.
Non, mais c'est des films qui durent 2 heures et quelques. Hein. Ici, on est à 2h54. Oui. Et très souvent, ça a le défaut d'être chiant. Ou en tout cas, pour moi, je sais pas, il y a des gens qui adorent, hein, mais moi, je suis pas client.
J'en fais partie.
Je sais, je suis pas client, désolé. par contre, là, il y a du positif. On se dit, ok, peut-être que là, il va nous faire un film qu'on va comprendre déjà. Ce serait un bon début. Puisque le synopsis est clair, nous sommes dans une situation bien connue, c'est la Seconde Guerre mondiale, il faut rejoindre les troupes nazies, en tout cas quand on est autrichien, quand on est allemand, c'est clair que c'est dans la lignée, mais si on n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut fuir? Est-ce qu'on va se faire tuer? Si oui, est-ce qu'on va se faire pourchasser? Est-ce que je peux aller vivre tranquille dans la montagne avec ma femme? C'est un peu ça le choix, en tout cas, du héros de ce film.
Ouais.
Et il a pris un casting totalement différent. Pas de. Allez, peut-être. Tu vas me dire oui, moi je connais tout le monde, mais pas de visage connu du grand public en tout cas. Donc il change sa démarche.
Quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas.
Du grand public, j'ai dit.
Oui, mais non, je pense que le grand public connaîtra certains visages.
Vous,
mais...
forcément, vous connaissez tout le monde. Mais voilà, très grand public dont je fais partie.
Oui, c'est pas Ryan Gosling, Natalie Portman et Christian Bale.
Pas Danny Boone, quoi. Voilà,
non.
Ok.
Mais alors, tu veux que je parle du casting directement?
Non, mais tu parles des retours aux sources, on va dire, de Terrence Malick, et du choix de peut-être s'éloigner du système hollywoodien, même s'il n'a jamais fait partie du système, on est bien d'accord,
en
tout cas des acteurs et des actrices de prestige pour revenir à une histoire peut-être un peu plus ancrée.
Mais,
voilà.
Alors, pour faire simple, effectivement, Terrence Malick a toujours été un réalisateur qui était un peu à la marge, c'est-à-dire qu'il a fait 2 premiers films absolument fantastiques, qui étaient Les Moissons du Ciel et puis Badlands. Non, j'ai l'impression que j'ai dit 2 fois le même titre, mais en français et puis en anglais. Enfin, soit...
C'est pas grave, c'est non, du direct.
Non, c'est juste, j'ai dit les deux. Les Moissons du Ciel et Badlands. Et puis, il a attendu 20 ans avant de faire le suivant, qui était La Ligne Rouge, un de mes films préférés de tous les temps. Un des plus beaux films de guerre qui existent. Bref. Et puis il y a eu Le Nouveau Monde, hein, son histoire de Pocahontas un peu revisité. Pas tant que ça, mais voilà, un petit peu quand même.
Sans les chansons.
Très très beau film. Et sans doute un de ses films les plus sous-estimés, je pense. Et puis c'est vrai qu'il a commencé à s'égarer un peu plus. Enfin, s'égarer. Pour ceux qui pour ses détracteurs, on va dire qu'il s'est égaré un peu, il y a eu Tree of Life, Palme d'Or, film magnifique, mais qui était déjà dans quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, métaphysique, très philosophique, voilà, très introspectif.
C'était Brad Pitt et sa voix off, hein, qui était déjà en test à ce moment-là, avant Ad Astra.
Voilà. Et puis, on suivit tous ces films encore plus loin dans le délire, To the Wonder, Night of Cups, Song to Song, effectivement. Il y a eu un documentaire, un truc un peu sur l'espace aussi, enfin bref. Et voilà que, 15 ans après Le Nouveau Monde, plus ou moins, parce que je pense que Le Nouveau Monde est sorti vers 2006, quelque chose comme ça, il revient enfin à quelque chose d'un peu plus narratif qui, tout le monde s'accorde pour le dire, devrait un petit peu calmer ses détracteurs. En tout cas, peut-être un petit peu ramener les gens qui étaient plus hostiles à son cinéma des dernières années, les ramener un petit peu vers ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, on est dans quelque chose de plus fictionnel. Enfin, fictionnel. Non, ça s'est vraiment passé, tout ça.
Oui.
Mais on est dans quelque chose de plus classique, d'une certaine façon. Un petit peu, parce que ça reste Terrence Malick. Et donc, il y a quand même toujours beaucoup des plans sur des caméras. Enfin, c'est des caméras qui virevoltent pour filmer les oiseaux, le ciel, les arbres, le vent dans les arbres. Un personnage qui regarde la nature. Voilà, un insecte qui passe. Un truc, quelqu'un qui court dans un champ, etc. Il y a toujours, mais il y a un peu moins. Et surtout, je pense que c'est plus fluide. D'accord. Avec la narration et avec tout ce que...
Ça se mélange, quoi. Son style se mélange avec un cinéma plus classique.
C'est ça. Alors, faut pas s'attendre non plus à un truc de complètement narratif comme l'étaient Les Moissons du Ciel ou Badlands. Mais, voilà, on retrouve quand même quelque chose de plus... un peu plus consistant à ce niveau-là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on suit Franz Jägerstätter. Effectivement, un fermier autrichien qui ne veut pas s'enrôler dans l'armée nazie et qui veut vivre sa vie pépouze avec Franziska.
Avec son épouse.
Son épouse. Voilà.
Quel beau rime.
Tout va pas se passer comme prévu, non. Évidemment. Il va y avoir plein de péripéties. Il va se faire attraper, il va aller en prison. Enfin bref, pas mal de choses. Il va croiser des nazis, évidemment. Et voilà, il va se passer pas mal de choses. Tout cela dans un rythme quand même relativement posé, hein, c'est Terrence Malick, comme je le disais.
On prend le temps, 2h50, oui.
Donc oui, effectivement, c'est pas Bad Boys, quoi. Hein.
Non, ça c'est sûr.
Si je puis dire.
Mais il y a ce côté du coup poétique. Hein. Allez, c'est intense, c'est beau, il y a cette esthétique qu'on ne peut pas lui reprocher. Enfin, je veux dire, c'est toujours le point fort des films de Terrence Malick. Hein. C'est que quand on regarde ça, on est toujours un peu subjugué.
De loin. Ah ben, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Mais ce film est magnifique, tout simplement. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Terrence Malick. C'est une fresque incroyable. C'est un voyage qui reste spirituel, qui reste un peu introspectif. Qui remet qui pose des questions, qui remet en question certaines choses aussi, qui fait s'interroger les gens, et tout cela de façon vraiment hyper belle, magnifique. Et puis on est dans quelque chose de très intense, de très fort, vraiment, dans ce que ça raconte, dans voir à quel point les images sont touchantes, à quel point, évidemment, les personnages sont touchants, mais voilà, c'est, je trouve que peu importe le film qu'il fait, chacune de ses œuvres est relativement, enfin, je peux dire indescriptible.
Oui.
Mais voilà, il y a une espèce d'aura un peu mystique qui entoure son cinéma, et je pense qu'un film comme Une vie cachée en est un des plus beaux représentants, un des plus beaux témoins. Je pense quand même que c'est une œuvre qui va peut-être réconcilier quand même certains de ses détracteurs avec son cinéma.
Légèrement plus accessible, du coup, plus facile à rentrer dedans. Et surtout, apprécier son style. Parce que si on a le côté narratif, à côté, on a les images virevoltantes et on se concentre sur la coccinelle, etc. Mais si c'est expliqué dans un schéma narratif où le héros, par exemple, retrouve la nature après la captivité, j'en sais rien, j'invente, forcément, pour le spectateur, c'est moins frustrant que si ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur cet arbre et que,
ouais,
et que j'en ai un peu marre, quoi. Voilà, entre guillemets.
On peut dire ça comme
c'est
ça.
Plus, c'est plus acceptable, ça
on
passe
peut,
mieux.
On peut dire ça comme ça, effectivement.
Son style passe mieux.
Mais, ouais, enfin, moi je trouve que ce qu'il fait est grand, quoi. Sa mise en scène, tout ce qu'il fait, c'est inégalé.
C'est pas pour rien que les plus grands veulent travailler avec lui. Hein,
c'est ça, alors c'est quand même dingue. Tous les plus grands acteurs veulent tourner avec Terrence Malick. Ils savent que potentiellement ils seront coupés au montage, au pire, au mieux ils auront 2 minutes dans le film. Enfin, je veux dire, Travolta a été coupé de la ligne rouge, quoi, par exemple. Ouais. George Clooney, il a eu quoi, 2 minutes, 3 minutes à la fin et c'est tout. Mm-hmm. Et dans, toujours pour rester là, sur la ligne rouge, ça devait être Sean. Non, qu'est-ce que je dis?
Pas Sean Connery.
Adrien Brody. Enfin bref, il y en a un des deux qui devait avoir beaucoup plus de temps à l'écran. Enfin, même qui devait être le personnage principal. Je crois que c'est Adrien Brody qui devait être le personnage principal du film. Et au final, non, il ne l'est pas du tout. C'est Jim Caviezel qui l'est. Enfin bref. Ouais. Voilà, Terrence Malick, il se permet ce qu'il veut.
C'est le roi de son film, quoi. Ouais. Final Cut, ça c'est sûr que c'est lui qui l'a.
Et ici, alors le film se passe dans l'Allemagne nazie. Donc forcément, on a droit à pas mal de comédiens. Germanophile, si pas allemand, il y a quand même un acteur suisse, Bruno Ganz, décédé maintenant depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, Une vie cachée a été tournée il y a un moment. Hein.
Oui.
Le premier titre de ce film, c'était Radgund, et on en parlait il y a 4 ans, facile.
Okay, donc il s'est amusé dans ce montage longtemps, quoi.
Ouais, donc voilà, on retrouve Bruno Ganz, notre Matthias Kunartz national, qui se retrouve honnêtement avec 3 minutes dans le film, hein. Bon, il a un rôle qui apparemment est plus important dans le prochain film de Terrence Malick, celui sur Jésus, dont on reparlera encore.
En temps voulu.
Ben oui, mais on sait que la spiritualité et la religion sont des thématiques importantes.
Des thématiques fortes, bien sûr.
Mais voilà, gros casting quand même, avec Auguste Dill, même si le grand public ne sait peut-être pas forcément qui est Auguste Dill, je pense qu'ils ont tous déjà, tout le monde a déjà vu sa tête dans un film. Valérie Pachner est absolument fantastique dans le rôle de son épouse. Puis on retrouve quelques comédiens aussi, Tobias Moretti, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit pas beaucoup, mais qui a pas, enfin qui est génial. Et aussi Johan Leisen, un autre acteur flamand plus ou moins connu. Michael Nyqvist, acteur suédois qui est aussi décédé, mais il y a genre 3 ou 4 ans.
C'est et pas celui qui jouait
il jouait le méchant dans Mission Impossible 4.
Ghost Protocol.
Voilà, dans vrai, Ghost Protocol.
Donc, et dans Millennium, l'original.
Et dans Millennium, mais l'original,
pas le méchant,
effectivement.
Je crois que c'est l'enquêteur, voilà. Oui.
Ouais, ouais. Donc, c'est dire si le film a été tourné
il y a un paquet
d'années quand même. Hein,
okay.
Voilà, y a, pour ceux qui sont un peu familiers avec les comédiens allemands ou germanophones, vous en trouverez pour votre compte, parce qu'il y a du lourd.
Pour votre argent.
Voilà.
Très bien. Combien tu lui donnes du coup à Une vie cachée de Terrence Malick ?
Ben, beau, grand et hyper mérité, 4 étoiles.
4 étoiles pour Une vie cachée, c'est le film de la semaine du coup, Thibaut. On parcourt rapidement ce qui se passe la semaine prochaine au cinéma et ce qui se passera du coup la semaine prochaine dans Cinécast aussi.
Enfin, cette semaine d'abord, non ? Tu récap, non ?
Oui, mais j'ai pas de visuel pour cette semaine par contre. Donc
c'est pas grave.
J'ai déjà prévu la semaine prochaine.
Tu veux que je te le fasse direct là, rapidos ?
Ok, vas-y.
Bon alors, on a dit Official Secrets, 2 étoiles. Mm-hmm. Une vie cachée, 4 étoiles. Mm-hmm. Il y a Adam de Mariam Touzani. Je pense que c'était à Cannes, mais je suis pas sûr du tout.
Birds of Prey, 1 étoile. C'est précis.
J'allais y venir après, être casse. Hashtag, je suis là, d'Éric Lartigot avec Alain Chabat. Les traducteurs, film avec, un thriller avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko. Et Ricardo Scaramacci.
Oui.
Et puis Birds of Prey, effectivement, 1 étoile. Film très énervant. Donc voilà, ça ne méritait pas plus.
La semaine prochaine au cinéma, il y aura entre autres Les filles du Dr March, dont nous vous parlerons. On vous en parlera dans Cinécast. Mathias et Maxime, le nouveau film de Xavier Dolan.
Oui, on en parlera peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être.
T'as pas envie ou quoi ?
Pas plus que ça.
Les filles de joie, ça c'est un film de chez nous, de Frédéric Fontaine.
Fontaine, oui.
Fontaine, pardon. Avec notamment Sarah Forestier. On en parlera aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Pour Toujours.
On parlera aussi, pour terminer, ce seront les 3 films, du cas Richard Jewell de Clint Eastwood.
Ah, rien que ça, avec Sam Rockwell. Voilà. Celui qui enchaîne les bonnes prestations.
Ça me semble être un beau programme, quand même.
C'est un beau programme, comme chaque semaine dans Cinécast, donc restez à l'écoute. On vous remercie pour votre écoute ou votre... comment on dit ça quand on
fidélité
regarde. Votre...
Ma fidélité, c'est
votre
pas bien.
Fidélité, votre présence, votre... d'avoir tune-in, comme on dit en anglais, pour Cinécast, que ce soit en audio ou en vidéo sur notre chaîne YouTube, si ce test a fonctionné. Et
tu nous rappelles le concours ?
Mais c'est ce que j'allais faire. Et si vous vous abonnez, merci Thibaut, et si vous vous abonnez au podcast sur YouTube, vous avez une chance de remporter 2 places de cinéma UGC. Et je ne sais plus si on l'a dit en émission, mais c'est Kevin qui a remporté les 2 places de la semaine dernière. Donc bravo à toi, Kevin.
Et concours réservé à la Belgique, précisons-le.
Oui, c'est UGC en Belgique. Malheureusement, amis français, on ne peut pas être là pour vous, mais on est là pour vous par rapport à notre contenu et non pas par rapport au concours. Voilà. Mais abonnez-vous quand même, restez là hein, pour Cinécast. On se dit du coup à la semaine prochaine.
Bah oui, et on fait des bisous.
Des bisous. Ciao, ciao.